Alors bonsoir, bonsoir tout le monde, merci d'être présent en si grand nombre, c'est fun, merci pour de prendre le temps. Donc aujourd'hui, au conseil, nous avons le quorum avec le conseil et je déclare la séance ouverte en date de 19h02. Parfait, je vais passer pour la note, parfait. Au point 1.2, adoption de l'ordre du jour, donc... En conséquence, vous pouvez lire l'ordre du jour. Après ça, tu es dessus de la...
On pourrait le zoomer un peu.
Oui, juste passer ça un petit peu. Donc, on a ici période de questions spécifiques de l'ordre du jour, adoption du procès verbal, les deux derniers conseils, ensuite les correspondances, les finances, donc les comptes, et ensuite, il y a des avis de motion qu'on va déposer. On va vous expliquer ça au moment où on va les déposer. Ensuite, direction générale, donc on parle des contrats de travail des employés principalement, nomination de Mélissa, nomination d'Isabelle et le renouvellement du contrat de travail de Schneider. Travaux publics, il n'y a rien. Il n'y a rien d'urbaniste. Il y a un point au loisir, culture, vie communautaire à propos de la pièce de théâtre. Et affaires nouvelles, on va vous donner un état de l'avancement du dossier d'enquête 47. Informatif. Et suite à ça, il y a l'intervention des membres du conseil et il y aura une période de questions. Donc, juste pour être certain dans le processus, c'est qu'on va passer au travers de tous les points de l'agenda et la période de questions aura lieu à la fin. Puis on va pouvoir prendre les questions sur tous les points en lien avec l'agenda d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a des modifications à faire sur l'ordre du jour ici, dans les conseillers? Ça va? Parfait. Donc, l'adoption de la résolution est proposée par... Merci, Alexandre. Donc, il est résolu d'accepter l'ordre du jour avec aucun ajout. Pardon. Parfait. Donc,
excuse-moi. Oui. 4.2, ça n'a pas rapport là.
OK, parfait. Donc,
ça
va point. 1.4, adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du lundi 8 décembre, donc du personnel. Qui peut me proposer l'adoption? Karine, donc sur la proposition de la conseillère Karine Dufour, il est résolu d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 décembre 2025, tel que rédigé. Est-ce que quelqu'un voudrait qu'on vote là-dessus? Non? Parfait. Donc, adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du mercredi 17 décembre 2025. Donc, ça en prendrait un conseiller pour proposer l'adoption. Frédéric, merci. Donc, sur la proposition du conseiller Frédéric, il est résolu d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du conseil du 17 décembre 2025, tel que rédigé. Est-ce que quelqu'un voudrait un vote là-dessus? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Évidemment, tous ces documents-là sont disponibles sur le site web si vous voulez consulter. Parfait. Au niveau des correspondances, il n'y a rien qui a rentré donc, depuis les derniers conseils. Donc, il n'y a pas de communication spécifique.
Les cartes de Noël.
Les cartes de Noël.
C'est gentil.
Et de bonne année.
Et de bonne année. Donc, c'est tranquille de ce côté-là. Au niveau des finances et administration, le point 3.1, donc ça me prendrait un conseiller pour proposer les comptes à payer.
Donc, je propose France.
Merci, France. Donc, considérant que les sommes à payer au 19 janvier 2026 totalisent un montant de 166 589,73 et pour les... Il manque un chiffre, mais pour non. Les salaires, 40 953,03. Donc, sur la proposition de France Ouellet, il est résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée, que soit autorisé le paiement des comptes fournisseurs au 19 janvier 2026, et ce, selon les échéances prescrites. Est-ce que quelqu'un voudrait voter là-dessus? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Au niveau des comptes à recevoir, François Morneau, notre directeur général, il dépose la liste des taxes à recevoir au 19 janvier, qui totalise un montant de 75 331,49.
Oh, on va avancer.
Tu peux descendre dans les...
Merci.
Parfait. OK.
On rentre 3.2, 3.3, c'est-à-dire avis de motion et dépôt du projet de règlement F-2026-01 concernant la fixation des taux de taxes et compensations pour l'exercice financier 2026 et les conditions de leur perception. Donc, je vous explique avant que je rentre dans le texte plus administratif. Les avis de motion, c'est quoi? En réalité, c'est qu'on dépose un projet de règlement. Le règlement comme tel qui va définir les taxes, entre autres, pour la prochaine année 2026. Ce règlement-là est déposé en date d'aujourd'hui, disponible demain sur le site web. Vous allez pouvoir le lire, vous regarder ça. C'est un document qui est préliminaire, en ce sens que nous allons la semaine prochaine publier le budget. Donc, vous êtes chaudement invités à venir assister au budget la semaine prochaine. Et là, on va avoir tous les taux finaux qui seront communiqués à cette date-là. Et au conseil du mois de février, donc je n'ai pas la date exacte, mais mi-février, on va avoir l'adoption des résolutions pour les règlements concrets. Donc, c'est le processus avis de motion suivi du règlement au prochain conseil. Donc, je vais lire ici, ça va me prendre un proposeur pour le premier avis de motion.
C'est Thibault, Duster.
Thibault. Donc, avis de motion est donné par Thibault Desjuteurs, merci. Pour l'adoption du règlement F-2026-01 concernant le règlement établissant la taxation et les compensations ainsi que les coûts de service pour l'année 2026. Les membres du conseil ont tous reçu une copie du règlement, comme prescrit par la loi. Le projet de règlement est présenté en annexe 1. Annexe 1, pour nous, c'est sur le site web demain, donc c'est ce qui va être disponible. Le deuxième avis de motion, ça nous prendrait un proposeur. OK, merci, Karine. Donc, le deuxième, c'est à propos d'un avis de motion de dépôt du projet de règlement 2026-02 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme abrogeant le règlement F-2024-02. Donc, l'avis de motion est donné par Karine Chalifour pour l'adoption du règlement numéro F-2026-02 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme abrogeant le règlement F-2024-02. Le projet de règlement est annexé à la pièce annexe 2.
Peux-tu intervenir?
Tu peux intervenir.
Celui-là, c'est tous les coûts que ça coûte pour avoir un permis, des coûts de. Tous les types de permis sont là-dedans, les coûts des services qu'on rend aussi, c'est dans ce permis-là. Et dans le premier, c'est tous les coûts associés au règlement d'emprunt sur lesquels on doit prélever des taxes. Là. Donc, c'est deux permis qui sont réguliers dont on doit changer à chaque année.
Merci.
Merci. Merci de la précision, François. Donc, 3.5, l'avis de motion pour... ça va prendre le proposant.
Moi, Alexandre Morin.
Merci, Alexandre. Donc, le troisième, donc, avis de motion est donné par Alexandre Morin pour l'adoption du règlement R-2026-01 concernant la création d'une réserve financière pour la réalisation de la réfection d'infrastructures de voirie. De même que toutes les autres dépenses relatives au service de voirie, le projet de règlement est présenté en annexe 3. Là-dessus, une fois que j'ai fini de nommer les avis de motion, on a quelques petites diapositives pour vous expliquer plus clairement à quoi ça consiste. Donc, avis de motion, ça me prendrait un proposeur.
Encore une fois, moi.
Merci, Alexandre. Donc, un avis de motion est donné par Alexandre Morin pour l'adoption du règlement numéro R-2026-02 concernant la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Donc, le projet de règlement sera en annexe 4. Et le dernier avis de motion, ça prendra un proposeur.
Moi, Thibault Desjuteurs.
Parfait. Donc, un avis de motion est donné par Thibault Desjuteurs pour l'adoption du règlement F-2026-03. Concernant la tarification des services d'eau, le projet sera en annexe 5. Donc, ça complète les avis de motion. Si tu veux aller à la présentation, François, on va juste donner, je veux juste faire un petit résumé. Puis, comme je vous dis, les questions, on pourra les poser après là, qu'on aura fini le procès-verbal proprement
dit. On est dans le bon.
Là, on est dans le bon. Là.
OK, on est dans le bon.
OK, super. Donc, en réalité, c'est que, avant même qu'on rentre là-dedans, je voudrais juste prendre une minute pour remercier vraiment le travail acharné que François fait sur ce dossier-là depuis plus d'un an. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'efforts et de temps.
Un travail d'équipe.
Mais bon, c'est important de souligner parce que, dans le fond, c'est un projet que ça fait un petit bout de temps que c'est entamé. Puis l'objectif demeure, d'abord et avant tout, de créer des zones, des secteurs qu'on appelle, pour avoir des taux de taxation qui sont différents d'un secteur à l'autre. Donc, historiquement, au Lac-de-Lage, c'était le même taux applicable aux résidences, peu importe quel secteur les gens habitaient, peu importe le niveau de service. Et l'objectif de ça, c'est vraiment d'apporter une plus grande équité entre les citoyens, donc qu'il y ait un lien plus direct entre le taux de taxation et les services reçus. Et voilà. Donc, ça permet vraiment d'ajuster. Donc, c'est un processus qui a été entamé l'année passée. Puis là, on arrive concrètement avec la possibilité maintenant, là, dans notre année fiscale 2026, de pouvoir faire cette différenciation-là. Donc, ça, c'est le premier élément qu'on appelle la taxation par secteur. Puis là, vous voyez une carte qui est un petit peu de couleur. Là.
Tu peux, en besoin, tu, piton, ah oui. Tu peux pointer. Okay. Hey, on est équipé.
Hein. Okay, cool. Ça, c'est le lac pour ceux qui s'en demandent. Donc, simplement, ici, on a, dans le fond, il y a les secteurs. Là, les secteurs 1, c'est desservi par l'aqueduc, par exemple. Donc, il y a l'eau courante, il y a les sanitaires. Les secteurs 11, ce sont des zones de conservation. Puis après ça, le 3, 5, 9, c'est les terrains qui appartiennent au manoir, donc il y a un zonage différent. Le secteur 6, c'est le secteur qu'on appelle du rocher, donc il n'y a pas de service d'égout. Mais bon, donc l'idée c'est, puis il y a un secteur, le 10, c'est forestier, donc essentiellement dans la montagne là, derrière la rue du Pied-des-Pentes.
Donc, et le 9, c'est occupé par l'Empire 47.
Ah oui, c'est ça. C'est le manoir, donc ici, là.
Oui.
Le 9, ça appartient au manoir, mais c'est occupé par, entre autres, les sentiers d'Empire 47.
Et le 7? En bas.
Ah oui, c'est ça. Le 7, c'est beau.
Le 7? Le 7, ce qui est particulier, c'est des gens qui habitent au Lac-de-Lage, qui payent des taxes au Lac-de-Lage, mais qui ne reçoivent aucun service à part l'incendie. Puis encore, ça part de ce tournant, forcément, par Lac Saint-Charles et autres. Donc, on a comme on est. Alors, actuellement, on pour être équitable, comme ils n'ont pratiquement pas de service, ils vont payer essentiellement une taxe de base, taxe d'incendie, Sûreté du Québec, qui sont des choses de base. Mais, et aussi pour les matières résiduelles, parce qu'il faut les équiper en matières résiduelles, parce qu'actuellement, ils vont porter leur matière résiduelle au Lac Saint-Charles dans un conteneur. Fait que là, on règle ça, cette affaire-là, pour cette année. Donc, c'est vraiment un renouveau au niveau des champs de taxation qu'on apporte.
Parfait, merci.
Question 2.
Pardon?
2.
2, c'est la rue du Refuge.
Mais c'est quoi la différence avec...
C'est la rue du Refuge, ils sont propriétaires de la rue, donc on ne fait pas le déneigement. On va dans le détail, là. Alors, les frais d'entretien de la route, ça vous appartient. Par contre, on prend les égouts. Et l'aqueduc.
C'est ça.
Alors, on va dans ce petit détail-là.
C'est ça. Merci. Alors, ça, c'est pour ce qui est de taxation selon les secteurs. Donc, là, on va aller à la prochaine slide. Donc, on va introduire cette année une nouveauté qui est la taxation d'eau. Ça aussi, c'est un processus qui a débuté plus d'un an, je pense, à ça. Puis, c'est une obligation provinciale. Ce n'est pas juste d'un bon vouloir. C'est une obligation provinciale de s'assurer de comprendre la consommation d'eau, entre autres pour les immeubles commerciaux. Okay? Donc, à partir de là, ce qu'on a réussi à faire en mettant des compteurs d'eau, donc entre autres, commercial ici, ça égale le manoir. Là, donc, on a la consommation du manoir qui correspond à ce jour là, à 38% de toute l'eau qui est produite au Lac-de-Lage est consommée par le manoir. Donc, maintenant, on a ces points de données-là et ça va permettre d'avoir une taxation d'eau dans le commercial en fonction de la consommation. Donc, on va pouvoir maintenant avoir un lien encore plus direct entre le nombre d'eau consommée puis la taxation qui va être annulée. Historiquement, tout le monde avait ici sur son compte de taxe un montant fixe de 700 $ à peu près pour une unité ou je pense que c'est 1225 pour deux logements.
Ouais, pour deux logements.
Donc, c'était fixe, autant pour l'aqueduc que pour les sanitaires. Mais maintenant, on va être capable de le répartir au niveau commercial pour qu'il y ait une taxation à la consommation au niveau de l'aqueduc et une portion fixe toujours pour le sanitaire. Et pour les particuliers, pour l'instant, il n'y a pas de taxation d'eau. ça prendrait des compteurs sur toutes les maisons. C'est pas pour l'instant dans les cartons de faire directement pour le résidentiel. Mais au moins, là, on est capable de segmenter là, la consommation du manoir à ce moment-là.
On est quelques-uns qui l'ont au compteur.
Oui.
Bon, en fait, c'est ça. On avait 25 compteurs à installer pour voir la variabilité en fonction. Là. Comme chez moi, j'ai une piscine, j'ai un spa, j'ai encore une grande fille à la maison, elle consomme de l'eau par rapport à des petites familles, par rapport à des jumelés. Donc, on a une bonne distribution de la variabilité. En fait, l'idée, c'est de voir la consommation moyenne de la population. Et avec le compteur que le manoir a depuis un an, on l'a fait tourner pendant un an, ça permet aussi de savoir que la goutte d'eau qui tombe dans le robinet ou dans le levier ou dans la cuvette, ça vaut aux égouts. Alors aussi, on est capable de départager aussi la part qui... la contribution à notre usine d'assainissement. Donc, c'est vraiment important. L'idée de cet objectif-là, ça fait partie d'une stratégie québécoise pour réduire la consommation d'eau. Parce qu'au Québec, on est des très gros consommateurs. Donc, il faut apporter une taxe par volume d'eau consommée. C'est aussi nouveau. Avant, c'était 700 piastres par chambre au manoir. Là, maintenant, il y a un taux par chambre, puis il va y avoir un taux par volume d'eau. C'est 24 000 mètres cubes. On a fixé un taux au mètre cube. Donc, c'est... Puis l'idée, c'est de dire, si je suis capable d'améliorer en changeant certains équipements pour faire baisser la consommation, mais tout le monde va être gagnant.
Exact. Puis en termes de consommation au niveau des citoyens, je pense que dans la moyenne provinciale, on se situe quand même bien. Là. Ouais. On a une population qui n'est pas trop consommatrice d'eau, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais avant, on ne pouvait pas départager ça parce qu'on avait les volumes combinés avec le manoir, fait que... Techniquement, on ne paraissait pas très bien parce qu'il y avait beaucoup d'eau.
Puis j'ajouterais les réparations qu'on a fait au cours des années. Mm-hmm. On a réduit énormément l'infiltration d'eau dans les conduites qui allaient vers l'usine. Ça aussi, ça a été très, très bénéfique. T'sais, on voyait que les emprunts, tout ça, là, mais je peux vous dire que c'est gagnant déjà, beaucoup gagnant.
Est-ce que vous prévoyez installer des compteurs d'eau pour des particuliers?
Non.
Pourquoi?
Parce que ça coûterait trop cher pour nous autres.
Oui, mais est-ce qu'il y aurait... Vous avez dû observer d'autres municipalités qui en ont installé. Est-ce que ça crée une diminution assez importante?
Oui, mais il y en a très peu. Puis finalement, là, le ministère de l'Environnement qui surveillait notre consommation, sans savoir ce que le manoir prenait, on était au-dessus de la moyenne. Mais là, on est vraiment dessous de la moyenne.
Okay.
Vraiment. Donc, installer des compteurs d'eau, ça coûtait quand même une trentaine de mille dollars là, pour les 25. Là. C'est quand même pas gratuit.
Si ça réduit les eaux usées, il va y avoir des économies qui vont être...
Absolument.
Aussi. Mais on peut quand même aussi se sensibiliser, surtout en communauté, pour améliorer notre consommation sans nécessairement avoir un compteur. Ça, c'est un exercice qu'on doit faire. Puis, je pense qu'on a des projets intéressants de mieux communiquer justement des trucs, des façons pour minimiser l'impact de l'eau qu'on utilise. Ça, on va le faire inévitablement, même s'il n'y a pas de compteur. On faut tout être sensible à ça. Là. Exactement, oui, c'est ça. Ouais.
Puis, tout qu'on fait, ceux qui ont les compteurs d'eau, est-ce qu'on va nous informer soit de notre performance à travers le temps, parce que nous, on a été plus volontaires
Mais je pense que vous avez accès, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu les compteurs.
C'est comme un odomètre d'un automobile. Tu prends une photo tel mois, tu prends une autre photo puis tu fais un petit calcul. Mais il y a aussi de la télémétrie là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès. Chaque compteur a une borne cellulaire qui nous permet d'avoir. On n'a même pas exploré ça, là, on a autre chose à faire pour l'instant, mais on le fait sur une base annuelle. C'est vraiment intéressant. Là.
Mais vous pouvez le faire. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Je ne sais pas comment, mais vous pouvez le faire.
Il y a un petit capuchon. Oh, le petit capuchon, c'est comme un odomètre.
J'ai aucune idée, c'est pas ma consommation avant l'installation du compteur.
Ouais. OK. Bon, ben je continue avec le troisième avis de motion à l'égard de la création des réserves. Donc, je vais prendre ici, quand on parle de réserves financières, dans le fond, l'objectif, ça, c'est une nouvelle chose qu'on va faire pour la ville de Lac-de-Hache. Historiquement, il y avait pas... Il y a déjà eu des réserves, mais en tout cas, là, il n'y en avait plus. Fait que là, historiquement, ce qu'on va faire maintenant, c'est que plutôt que de se retrouver dans des situations comme la dernière vidange d'égout, par exemple, qu'on doit faire un emprunt pour être en mesure de, en guillemets, faire notre épicerie. Là. Mais l'idée, c'est qu'on va aller au-devant des choses, donc on va commencer à ramasser de l'argent tout de suite. pour être en mesure de, là, au moment où on va devoir faire ces activités-là, ben, on va avoir de l'argent, on n'aura pas besoin d'emprunter. Donc, c'est la logique derrière la création de réserves. François a travaillé à évaluer, dans le fond, ça pourrait être quoi les besoins en infrastructure voirie. Il va y avoir deux réserves spécifiques, donc une destinée à la voirie et aux infrastructures, et une autre pour le traitement des eaux. Et puis, l'objectif, c'est ça, c'est encore une fois, c'est de se donner un peu de coussin là, pour être capable de pallier. Il y a des exemples, comme vous voyez sur le tableau, je ne dirai pas tout ça, là, mais c'est des exemples de choses qui vont pouvoir être faites avec l'argent qui est ramassé dans la réserve. Et ça va être contribué en fonction aussi, de, entre autres, au service traitement des eaux, mais en fonction des utilisateurs. Donc, les gens qui n'ont pas accès au service d'eau, ben, contribueront pas à cette réserve-là parce que c'est pas quelque chose qui va leur servir. Et pour la voirie, ben, c'est essentiellement l'ensemble des citoyens, sauf les quatre, pour le moment, qui sont sur l'avenue de Lac-Saint-Charles parce qu'ils n'ont pas accès à notre système de voirie. Là, donc. Mais pour l'instant, c'est ça la logique. Les montants sont en train d'être finalisés. Là. Ça, c'est à titre représentatif. Là. Ça va faire partie des choses qu'on va communiquer au budget la semaine prochaine. Typiquement, ça sera un taux de taxation en fonction du 100 $ d'évaluation pour les infrastructures de la voirie. Et pour l'eau, on est encore en train de valider si on va le faire avec un taux du 100 ou si ça va être un taux fixe pour la contribution. Avec des échéanciers de 10 ans là, pour l'instant. Là, donc, voilà.
En fait, la réserve que tu as fait plus que 10 ans, si on ne la dépense pas. Mais il fallait l'estimer pour savoir comment on allait investir par année. Alors, on l'a mis sur 10 ans dans les deux cas. Mais dépendamment, pour l'instant, c'est sur 10 ans. L'autre affaire qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, on a monté une planification stratégique au niveau de nos infrastructures il y a 2 ans. Et au-delà de dire, on les répare, ça coûte tant, combien il faut mettre par année pour l'entretenir? Et ça n'a jamais été fait, ça, ici. Okay? On avait attendu longtemps avant qu'on mette à niveau nos choses. Mais à chaque année, il arrive des bris, il arrive... pour vous donner une idée, il y a encore une dizaine de lampadaires à changer. C'est 10 000 $ par lampadaire. On n'ira pas en faire un emprunt, mais à 5 % d'intérêt. Si on a une réserve, on va les changer petit à petit, puis on va finir par faire le tour. Puis, c'est comme ça pour les moteurs-pompes. Actuellement, on change les moteurs, nos aérateurs. C'est rendu 20 000 $ par moteur. Ça coûtait 5 000 dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les réusine pour 12 000 $. Alors, c'est à peu près ça. Alors, tout ça va faire partie du plan triennal des immobilisations. Mais on va chercher l'argent pour les financer. Avant, on faisait des beaux plans d'immobilisation, mais on n'avait pas le financement. Fait que ça restait des rêves. On tassait à chaque année. Comme là, ça nous prend une génératrice pour notre station d'eau potable. Hein? On manque beaucoup d'eau. Alors, on n'a pas une grosse marge de manœuvre avant que notre réservoir se vide. Alors, oui, c'est ça. Alors,
on manque pas d'eau.
On manque pas d'eau. On manque d'électricité. Alors, ça prend une pompe pour pomper dans le réservoir en haut. C'est quand même un 40 000 $ d'investissement. Donc, ça fait partie du plan d'immobilisation, mais on va chercher des sous de cette façon-là, plutôt qu'aller chercher un emprunt de 200-300 000 à 5-6 % d'intérêt.
Il faut le voir un peu comme des frais de condo. Là. Donc, on donne de l'argent pour pallier à ce qui va devoir être fait, essentiellement. Donc, j'arrête là-dessus. Ça fait le tour, dans le fond, des trois des avis de motion et des points principaux. Encore une fois, tout ça va être disponible. Ça va être confirmé, les montants et tout, lors du dépôt du budget. Là.
Véronique, je vais te passer la parole pour la suite. Alors, on est au point 4 de la direction générale, la 4.1, adoption de la Convention de travail des employés municipaux 2026. Alors, considérant que la Convention de travail des employés municipaux se terminait le 31 décembre 2025 et qu'il y a lieu de revoir les échelles salariales des employés en fonction du marché et des autres municipalités de la MRC, considérant que les membres du conseil ont tous reçu la copie de la convention de travail avant la séance, je propose, donc sous la proposition Véronique Bélanger, il est résolu que la convention de travail des employés municipaux de Lac-de-Large soit adoptée et que cette convention soit effective rétroactivement à compter du 1er janvier 2026.
Merci. Que quelqu'un demande le vote sur cette proposition. Personne. Donc, ça va être adopté à l'unanimité.
Voulez-vous qu'on présente un peu ce que c'est nouveau? Essentiellement, on équipe nos employés là, en habits de travail et d'équipements de sécurité. On a découvert que ceux qui prenaient des masques pour descendre dans les conduites des égouts, ben, ils n'avaient jamais changé des filtres. Et donc, on leur fait là, un petit kit d'habillement. En fait, c'est tout simplement normal. Puis l'augmentation salariale, ça a été fixé à 3 % comme les années passées. Alors, maintenant, c'est une convention sur 3 ans à 3 % chaque année. C'est ce qui a été voté et proposé par le conseil. Essentiellement, c'est ça.
Merci, François.
Il est résolu que Mme Mélissa Turmel soit nommée au poste de trésorière pour la ville de Lac-de-Lage à compter du 1er janvier 2026, que le maire Alexandre Pelletier et ou le directeur général et greffier M. François Morneau soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour officialiser cette nomination et pour donner effet à cette résolution.
Il y a les deux.
Ça s'en vient. On est à 4.2.
Regarde, on est là.
Oui, c'est ça, mais...
Il y a une petite erreur.
Une petite erreur, mais oui. Merci pour l'observation, mais ouais. C'est très arrière. C'est dans, dans l'ordre du jour, c'est pas vrai, mais dans le procès-verbal, on... Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette proposition? Personne. Donc, ça va être adopté à l'unanimité.
Le point 4.3, c'est ce qui diffère de l'ordre du jour qui vous est projeté. Au point 4.3, l'ordre du jour, on vous a dit modifié.
On a dit modifié, mais on n'a pas eu le temps de modifier.
À la nomination de Mme Mélissa Turmel.
Vous avez raison.
En tant que greffière adjointe de la ville de Lac-de-Lage. Voilà. De Lac-de-Lage à compter du 1er janvier 2026, que le maire Alexandre Pelletier et ou le directeur général et greffier M. François Morneau soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour officialiser cette nomination et pour donner effet à cette résolution.
Donc, est-ce que quelqu'un demande un vote sur cette résolution? Parfait. Je vais donner juste un mini point de précision là-dessus. C'est que, en fait, on avait... aucune greffière ou greffier adjoint à la ville, ce qui était un problème parce que techniquement, légalement, on avait l'obligation d'en avoir une personne nommée. Par exemple, on ne pourrait pas avoir de conseil ici si, parce que François avait tous les chapeaux avant, donc si François n'était pas là, ben, on ne pouvait pas tenir de conseil. Mais en ayant une personne adjointe, un greffier ou greffière adjointe, maintenant on pourrait tenir un conseil à la présence de greffier ou greffière adjointe. En absence de François. Donc, ça nous donne la possibilité de continuer de voter et de faire l'opération du conseil là, dans l'éventualité.
Et ça me donne la possibilité de prendre des vacances.
Est-ce que c'est vrai que Mélissa, elle n'était pas greffière avant, c'est ça?
Elle n'était pas officiellement greffière. Non, non ça n'avait jamais été officialisé. C'est ce qu'elle fait. Puis Isabelle aussi contribue à ce rôle-là, mais ce n'était pas officialisé là, dans les statuts par résolution du conseil.
Elle était juste trésorière?
Elle n'était pas non plus trésorière. Elle était...
adjointe à la direction générale.
C'est ça.
OK.
Mais ce n'était pas nommé en tant que...
Est-ce qu'elle est trésorière et
greffière?
Greffière
adjointe.
Dans le passé, on a eu des... Moi, j'avais fait des jeux.
J'ai pas de réponse à ça. Mais les choses évoluent aussi. Là. Donc maintenant, on sait qu'il faut avoir ces standards-là. Et d'ailleurs, ceci étant des choses qu'on apprend, parce qu'on apprend tous les jours, mais dans toutes les fondations qu'on a suivies ici, en termes de conseillers et maires et tout ça, donc ce sont justement des nuances que des fois pouvaient avoir échappé, que maintenant on peut remettre en place de manière plus complète. Donc, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours amener des choses plus conformes, disons-le comme ça.
Merci.
C'est fait.
Alors, je fais ça. 4.2, la nomination, Mélissa comme trésorière, et 4.3. l'animation de l'épisode sur Mère comme greffière adjointe. Je suis maintenant rendue au point 4.4.
Qui est 4.3 à l'écran, là?
La nomination de Mme Isabelle Coulombe en tant que greffière adjointe de la ville de Lac-de-Lange. Sous ma proposition, Véronique Bélanger, il est résolu que Mme Isabelle Coulombe soit nommée au poste de greffière adjointe pour la ville de Lac-de-Lange à compter du 1er janvier 2026, que le maire, Alexandre Pelletier, et ou le directeur général et greffier, M. François Morneau, soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour officialiser cette nomination et pour donner effet à cette résolution.
Est-ce que quelqu'un demande un vote sur cette proposition? Non? Alors, adoptez l'unanimité. Parfait. OK. 4.5. Est-ce que Thibault, tu voudrais continuer avec ce point-là?
Oui. Donc, 4.5, renouvellement du contrat de travail de Schneider-Augustin à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement. Considérant que M. Schneider-Augustin agit à titre d'inspecteur en bâtiment et environnement depuis juillet 2025, considérant que la Ville doit compléter la concordance de sa réglementation d'urbanisme pour se conformer au schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier, considérant que la Ville doit amorcer une importante mise à niveau de l'ensemble de sa réglementation, de son plan d'urbanisme et de son zonage, notamment pour se conformer au plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, et d'ajouter les nouvelles dispositions réglementaires du ministère de l'Environnement qui seront administrées par la Ville, qui sont issus du programme de modernisation du régime d'autorisation environnementale et de la concordance du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leurs impacts sur l'environnement, le REAFIE. Finalement, considérant qu'il est opportun d'apporter un soutien professionnel au service d'urbanisme de la ville afin que les mandats réguliers puissent se réaliser compte tenu de l'importance des mandats de mise à niveau de la réglementation de la ville, je propose à Thibault de Stair, c'est sous ma proposition, il est résolu que le Conseil renouvelle pour une période de 6 mois le mandat de M. Schneider-Augustin à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement et responsable de mission des permis et qu'il soit autorisé à aller inspecter sur le terrain et à signer tout effet relativement à l'émission du permis.
Est-ce que quelqu'un demande un vote sur cette résolution? Personne. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Pas 6 mois, quand même.
10 ans. On va vous donner des explications vers la fin un peu sur comment on travaille avec le département de l'urbanisme, mais ça va pouvoir répondre à cette question-là. Donc, travaux publics, il n'y avait rien. L'urbanisme, il n'y avait rien. Donc, au point 7, Fred, est-ce que tu as la voix? Non, excuse-moi. Non, non, c'est ça.
Donc, oui, pour le point 7, oiseaux, culture, ainsi que la vie communautaire, nous avons un vote de félicitations pour la pièce de théâtre et la fête de Noël. Donc, sur la proposition du conseiller. C'est arrivé. Que le conseil adresse un vote de félicitations à Mme Diane Rondeau pour son implication dans la préparation de la pièce de théâtre présentée le 14 décembre dernier. Que le conseil adresse une mention spéciale à nos jeunes comédiens qui se sont impliqués avec cœur à la réussite de cette pièce. Que le conseil adresse une mention spéciale au Père Noël qui est venu du Pôle Nord afin de distribuer des cadeaux à nos jeunes de la joie et de la joie, pardon. Que le conseil adresse une mention spéciale à nos organisateurs de la fête de Noël qui se sont impliqués avec cœur à la réussite de cet événement. Donc, nous tenons tous à vous remercier pour votre implication et à ce présent. Merci. Et je pense que
tu as donné c'était ça. Oui, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont participé comme bénévoles?
Donc, on tient à vous remercier personnellement.
Merci beaucoup. Donc, aucun point à sécurité, protection, et nous sommes à affaires nouvelles. Donc, on voulait vous faire une petite état de la situation sur le dossier d'AMP 47. Alexandre, je vais te passer la parole pour débuter sur ce point.
D'accord, merci. Donc, dossier chaud depuis plusieurs années déjà, le dossier là, qui nous oppose à AP 47. Ben, en fait, le désir du conseil, ça avait déjà été quand même annoncé pendant la campagne électorale, c'était de voir comment on pourrait arriver à une entente négociée avec AP 47. Avant de se faire, ce qui a été entrepris, la première action qu'on a faite, ça a été de rencontrer avec le nouveau conseil nos avocats, nos conseillers juridiques pour faire le point sur le dossier. Moi, je l'avais fortement suggéré là, pour que tout le monde arrive avec la bonne information, puis l'information qui est à jour, qui est la même pour tous. On a rencontré notre avocat, comme je viens de mentionner, où la situation a été exposée pour bien expliquer à tout le monde, comprendre les enjeux, puis les aboutissants de ça. Et puis, notre conseiller, notre avocat, nous recommandait de mettre une pause à la poursuite pour donner la chance au nouveau conseil et à l'Empire 47 d'en venir à une entente qui serait négociée. Donc, c'est suivant ces recommandations-là qu'on a décidé de suspendre. On ne l'abandonne pas, la poursuite, on l'a suspendue là, pour une troisième ou quatrième fois pour se donner là, la chance de conclure. L'objectif, c'est vraiment de conclure une entente. Et puis, la suspension, c'est jusqu'au 31 mai. Donc, l'objectif est d'arriver à une entente d'ici 30 avril. Pour ce faire, bon, on a créé un comité pour discuter, pour négocier, pour s'entendre. Le comité est composé à la fois de conseillers municipaux. Moi et Karine, on a été désignés pour être les représentants. Puis Alexandre, le maire, participe également. Puis, du côté d'Emploi 47, c'est trois membres du conseil d'administration qui font partie du comité. On s'est déjà rencontrés une fois avant Noël pour entreprendre là, les discussions. Puis, avant que Karine vous explique c'est quoi les points dans l'entente, il a été clairement établi que c'était une suspension puis que sans entente au 30 avril, ben, on serait dans l'obligation de poursuivre la procédure que déjà été entamée en 2023. Fait que Karine, vous pouvez nous parler là, du.
C'est ce que l'entente vise, en fait, c'est ça ce que l'entente vise. C'est deux points importants. D'abord, clarifier les besoins de 47 pour le projet d'accueil tournant, qu'on appelle le P2. Les infrastructures existantes, c'est ce qu'il y en a aussi là, à Lac de l'Âge, en fonction de la vision du projet là, de 47, le projet qui souhaite. Puis ensuite, c'est définir c'est quoi le plan de transition pour assurer, là, rétablir en fait, là, la conformité des installations, encadrer les activités commerciales, le développement des sentiers, l'offre de services de 47, là, tout, en respect de notre réglementation. Donc, comme tu dis, les discussions progressent. Nous, on veut en venir là, à cette entente-là. Donc, prochaine rencontre qui est prévue cette semaine. Donc, on se donne un air d'aller pour que les discussions avancent dans notre sens.
Parfait. Et je pourrais juste rajouter aussi qu'il y a eu une rencontre, François et moi, on a rencontré M. Gauthier et M. Joly du Manoir, donc pour avoir leur perspective. Sur justement leurs besoins, puis comment ils voient ça. Donc, c'est une rencontre jeudi dernier qui a été très constructive, là. C'était très positif. Donc, on rétablit ces ponts de communication-là. Puis, j'ai aussi eu une rencontre, une discussion téléphonique vendredi avec M. Couture, le maire de Sonam, donc pour comprendre la perspective de ce côté-là, pour qu'on ait toutes les pièces du puzzle. La prochaine étape, il y a les discussions qui continuent avec notre petit comité et les CA de l'Empire. Et la prochaine étape, ça va être d'avoir un comité de travail qui va composer de la ville de Sonam, du Manoir, pour vraiment préciser, dans le fond, là, les besoins qui sont nécessaires. Ce qu'on prévoit, c'est vous tenir informé, la population, les citoyens ici, là, à chacun de nos conseils. On va vous donner une mise à jour sur la progression. Puis on va vous. On va être disponible à répondre à vos questions. On va quand même garder les discussions pour progresser là, dans cette entente-là. Mais l'objectif est clair, là, c'est d'avoir une entente pour le 30 avril, là, donc, qui permettrait là, d'avoir un plan de match clair pour la suite des choses.
Je peux ajouter, Alexandre, si vous voulez. Tu sais, on sait que le dossier est polarisant. Il y a des gens dans notre population qui sont tout pour ou tout contre, mais en fait, on est conscient que l'important pour tous,
Bien, d'une part, c'est que AMP47 puisse poursuivre leurs activités, mais tout en respectant la réglementation. Puis ça, ça ne change pas. Je l'ai toujours dit, tous les gens qui ont assisté à plusieurs rencontres ici même, je l'ai toujours nommé. Ça. Puis l'important, c'est que ça se fasse, mais de la bonne façon. Puis aujourd'hui, je suis confiant, après quelques semaines, un mois et quelques, à la discussion avec mes collègues, qu'on a tous cet objectif-là. Fait que c'est pas on va tout scraper ce que la Ville a essayé de faire jusqu'à maintenant, ni l'inverse, on ne va pas non plus mettre la pression sur en fait pour qu'ils ferment. Ce qu'on veut, c'est en arriver à une solution qui est juste pour les citoyens de la Galage, qui va permettre le développement et la continuité pérenne de 47. Fait que soyez rassurés, on ne jette pas tout ce qui a été fait, ni l'inverse, on continue de travailler dans l'intérêt et de la joie principalement.
Donc voilà, c'était la mise à jour là-dessus. Si vous avez des questions, on va les prendre lorsqu'on aura dans la section de questions, si vous permettez. Donc on va conclure donc avec les périodes d'intervention des membres du conseil. Je pense que Thibault avait un point à partager.
Transport collectif. Donc comme vous le savez ou que vous ne le savez peut-être pas, la municipalité est desservie par transport collectif de la Jacques-Cartier, donc on a un trajet une fois par jour, des jours de semaine, une fois le matin, deux fois le soir. Et c'est ça, donc ça c'est géré par la MRC. Et la MRC renouvelle son entente avec ses fournisseurs au printemps, donc très prochainement. Et pour ce faire, pour qu'on puisse donner nos recommandations et tout ça sur une nouvelle entente possible, mais on aimerait recueillir l'opinion des usagers ou des non-usagers sous forme d'un sondage que vous pouvez partager dans les prochains jours ou semaines. Donc, on vous invite à le partager. Je ne sais pas si c'est un site qui l'utilise ou si vous connaissez des gens qui l'utilisent ou qu'il y en a qui aimeraient l'utiliser. Donc, il va y avoir un petit sondage qui va être diffusé sur nos plateformes pour avoir recueilli les opinions, toutes sortes de questions, là, assez simples, assez courtes. Donc, c'est pas mal ça.
Ça va nous guider, dans le fond, à faire la meilleure recommandation pour nos besoins à la MRC, puis en proportion avec nos moyens pour payer pour le service, parce qu'il y a eu beaucoup de hausses de coûts aussi là, dans le transport collectif. Là. Ces ententes-là ont été signées il y a plus de 6 ans, donc il faut imaginer là, que les coûts vont être plus élevés. Mais c'est pour ça qu'il faut s'assurer que le niveau de service qu'on va offrir soit en fonction de nos moyens puis en fonction des besoins de la population. Merci pour votre participation à ce niveau-là. Karine, veux-tu nous parler un petit peu de l'urbanisme?
Un petit point là, en référence au point 4.5 sur le renouvellement de contrat de travail de Schneider et Lucin. En fait, ce renouvellement-là, on met en place en fait, des solutions là, pour améliorer l'efficacité là, du service d'urbanisme. Ça fait partie d'une des solutions qu'on pense de mettre sur la table. On est confiant que ça va apporter là, une meilleure organisation du travail. En fait, René Drouin va s'occuper des dossiers de fond, la concordance de la réglementation d'urbanisme, la mise à niveau là, de notre réglementation aussi. Donc, il va se concentrer là-dessus, tandis que Schneider, lui, il va s'occuper des demandes de permis et de l'inspection. Donc, il va avoir une répartition des tâches. On va aussi faire une amélioration là, des fiches pour les demandes de permis sur le site web, que ce soit plus clair pour les citoyens, que ça soit aussi plus efficace par la suite à traiter là, pour le département de l'urbanisme. Tu as des choses à ajouter, François, là-dessus?
Ben, en fait, ouais, mais en fait, avec la part de Isabelle aussi à OREF, on est déjà en train de tout revoir, les fiches d'information qui étaient un peu trop théoriques. Là, on va chercher les meilleurs modèles chez nos voisins, hein, d'une certaine façon, pour que les gens préparent un peu mieux leurs demandes de permis. Parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient des demandes d'information, venaient rencontrer l'urbaniste pour finalement faire remplir leur demande de permis, ce qui prenait beaucoup de temps. Puis notre René, il est très volubile, donc il perdait beaucoup de temps. Alors là, on a tout mis en place un processus où, dans le fond, le secrétariat va être beaucoup mis à contribution pour recevoir l'information qu'on peut donner directement au niveau du secrétariat. L'information pour remplir une demande d'information va être beaucoup plus explicite. Donc, déjà, là, c'est déjà commencé. On en avait, mais là, on les améliore au maximum. tous les formulaires pour les types de permis sont déjà en place. C'est un processus en continu aussi. Et Schneider, mais dans le fond, 6 mois, c'est aussi une forme de probation. Là, on l'avait engagé comme stagiaire au départ. Mm-hmm. Il s'est occupé des piscines. Il a émis au-delà de 80 quelques permis de piscine. Il a fait un super bon travail. Après, on l'a graduellement mis au niveau des permis. C'est quand même toute une tâche. Là. C'est quand même pas simple.
Les piscines,
pour ça, c'est des clôtures? Les piscines, c'est... Oui, les piscines, les clôtures, la... Oui, c'est l'ensemble de l'œuvre autour d'une piscine, là. Finalement, c'est un règlement qui a été reporté au calendrier grec avec la ministre Guilbeault. On verra. Mais il reste que c'est pour des questions de sécurité que ça a été fait. Ça, c'est une chose. Donc, actuellement, ben, toutes les demandes de permis maintenant vont passer par Schneider, avec évidemment notre aide, parce qu'il y a aussi Louis-Philippe qui donne des permis pour tout ce qui est arbre. Et moi, j'aide pour tout ce qui est simple. T'sais. On change un bardeau pour un autre, là, des choses simples. Alors, on essaie d'améliorer notre façon de faire.
Merci. OK. Donc, en terminant, je voulais juste... Oui, c'est ça. Merci. Je voulais juste mentionner qu'on a publié cette semaine, je pense, le mot du maire. Donc, si vous, sur le site de la ville, vous pouvez consulter ça. Ça va être publié dans le De la Joie aussi. Donc, c'est juste pour donner un peu les lignes directrices sur comment on entend cette année-ci, le mandat et tout ça. On voulait vous communiquer ça. Et la semaine prochaine, ne manquez pas le budget. Donc, si ça vous intéresse de comprendre le budget, c'est lundi. Si je ne me trompe pas, c'est à 19h aussi. Même heure, même poste là, aujourd'hui pour lundi prochain. Donc, on va faire une séance qui sera exclusivement destinée à parler du budget. Donc voilà, ça termine ce qu'on avait à vous communiquer pour la période de questions. Donc on va y aller avec des questions qui ont trait à...
Excuse-moi, je pensais que
non, après, il faut faire les questions, puis après on lève l'assemblée. Mais on va se donner une période. C'est ça, hein?
Oui.
On va prendre les questions. S'il vous plaît, nommez-vous, donnez-nous votre lieu de résidence assez fort pour que l'enregistrement puisse fonctionner. Puis après ça, on va laisser une question par intervention. Puis après ça, on va donner une trentaine de minutes pour la période de questions. Si je ne me trompe pas, c'est ça dans les
à peu près
dans les régies. Là.
C'est des questions, hein? C'est des commentaires.
C'est ça. Il faut qu'il y ait une question. Donc, je vais commencer à Isabelle. OK. Donc, les projets de règlement ne seront pas mis en ligne, mais ils vont être là. OK. Une fois le règlement adopté.
OK.
Non, merci. Donc, vous voyez ce que. Greffière adjointe, c'est ça que ça donne. Mais plus. On est mieux lié. Oui, M. Boiteau.
Oui, Marc Boiteau, 34 bus. Je veux savoir, Alex, on a reporté à 3 reprises ces fameux litiges-là avec les garanties. On avait essayé beaucoup de. On avait donné beaucoup de compromis, on avait donné beaucoup de temps. Là, on le reporte une 4e fois. Je veux savoir ton feeling par rapport à ce que tu penses que vous allez être possible de négocier. C'est pas des nouveaux membres de leur côté, vous êtes un petit nouveau. Et est-ce que vous avez un feeling qui est positif? Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit peu plus d'énergie possible? Parce que, en tout cas, à 3 reprises, quand on a reporté, c'était toujours des solutions qui étaient plus ou moins adéquates. Même on nous a dit ici, lors du conseil, les représentants de garantie, ce qu'on voulait, c'est rester comme ça, tout simplement. Changer votre règlement, puis organisez-vous avec. La chance que vous nous avez donné d'être ici, on ne peut plus changer, on ne peut plus continuer. On ne peut pas aller ailleurs, c'est la meilleure place pour vivre dans la
cité. Je comprends ta question, Marc, puis je me la suis posée également, bien évidemment. Puis comme je l'ai mentionné là, au début, tout à l'heure, la première chose qu'on a fait, c'est rencontrer nos conseillers, rencontrer Maître Boudreau, qui expose la situation à tout le monde. Puis moi, je tenais mon discours pour plutôt que tout le monde ait de l'information sur des. On croit qu'on sait ou pas, tu sais, d'avoir l'information complète qui est présentée par là-bas. Puis, lui-même, l'avocat, nous recommandait fortement d'effectuer cette suspension-là afin, justement, de permettre au nouveau conseil, mais principalement aux gens qui ont fait campagne là-dessus en disant « Nous, on veut mettre ça de l'avant. » Fait que ça aurait été très malvenu de ne pas permettre ça. Lui-même, Boudreau, nous le recommandait fortement. Cela étant dit, on a eu des discussions principalement actuellement avec les membres du conseil d'administration. Il faut savoir qu'Empire 47 est un OSBL, ont un conseil d'administration, puis ont également des administrateurs. Pour l'instant, les discussions qu'on a sont avec le conseil d'administration. Puis ces gens-là m'apparaissent de bonne foi, puis nous ont mentionné vouloir réellement aller vers une solution. Maintenant, on est au début de tout ça. Puis comme je l'ai mentionné, on n'a pas abandonné, mais on a suspendu, comme on l'a fait déjà trois fois, tu as bien le mentionner, Marc. Mais je me suis définitivement rallié au best conseil en disant souvent les recommandations de Maître Boudreau qu'on se devait de faire cette ultime tentative. Mais comme je le mentionne, c'est pas un abandon. On ne leur donne pas carte blanche, on ne fait pas de la plaventrice, on leur permet une ultime fois de répondre à nos objectifs que l'on vient de présenter, qui sont de se conformer à notre réglementation, puis qui nous présentent un plan réel vers une transition vers leur P2, et ici, ce qui demeurera devra être conforme. Puis ça, c'est clair, c'est l'objectif qu'on poursuit. Est-ce qu'on va y arriver? Je le souhaite. Maintenant, le conseil d'administration de 47 semble enclin à avancer dans ces objectifs-là, parce que c'est des objectifs qu'on a présentés, puis c'est ces objectifs-là qu'on a discutés. Pour l'instant, je demeure optimiste, puis on ne se donne pas deux ans, c'est chaud. Puis je suis sûr que tu vas venir nous le rappeler quand ça sera.
C'est bien parce que.
Oui.
Oui. Votre oui, Vermelinger, 9 rue du Manoir. Est-ce que la solution sur laquelle vous voulez travailler est dépendante du résultat de poste d'accueil à ce moment?
Ben, en fait, oui. D'une part, oui, mais en fait, le point d'entrée qu'on leur a demandé à AP47, c'est de nous exposer ce qu'ils n'ont jamais fait, du moins récemment, leur vision, leur plan de développement, leurs objectifs. Car on ne les connaît pas. On sait, on entend parler du P2, on sait qu'il y a des développements où il y a déjà des actions qui ont été prises par la ville de Stournant, mais un promoteur de ce côté-là. Mais en pire, on leur demande de nous confirmer leurs intentions et de nous présenter un plan à partir duquel on va être en mesure de vérifier qu'est-ce qui nous convient à nous, la ville de Lac-de-Lage, puis qu'est-ce qu'eux veulent faire, c'est quoi leur plan d'ensemble. Et c'est ce qu'on leur demande comme premier objectif. Puis avec ça, nous, on va établir une liste des incontournables, des points sur lesquels on ne veut pas déroger. Puis avec leur plan, nos objectifs, on espère en venir à une entente. Évidemment, rendu au 30 avril, on n'aura pas les plans d'architecte, les plans d'ingénierie, les CA d'environnement. Puis tout ça, c'est sûr que c'est des étapes qui vont prendre plus de temps, mais on veut que le plan il soit bien établi, qu'il soit défini, puis que tout le monde y adore. Tout le monde, ça veut dire d'abord la ville de Lac-de-Lage, mais également Empire 47, qui sont les opérateurs du réseau de sentier, mais également Immeubles des Monts, qui sont les propriétaires des terrains, parce que même si Empire désire avoir un plan de développement, si le propriétaire des terrains n'est pas d'accord, ça va être difficile de réaliser. Puis il y a le manoir aussi, qui est propriétaire de l'ensemble des bâtiments et d'une portion des territoires qui sont occupés par les sentiers. Fait qu'on a besoin que tout ce monde-là se rallie derrière un projet commun dans lequel, je le rappelle, l'objectif de la ville de Lac-de-Lage est de désengorger notre centre en ayant un pôle d'accueil principal ou secondaire à définir ailleurs, ainsi que ce qui demeure ici devra être conforme à notre réglementation, autant sur le plan du zonage que de l'utilisation, que les opérations, de l'environnement, etc.
L'échéance du 30 avril, vous allez peut-être oublier d'apporter.
L'échéance du 30 avril est là pour définir le plan et d'avoir une entente sur un projet commun.
Non, mais juste pour préciser ce point-là, c'est important parce que c'est sûr qu'on n'aura pas toutes les réponses au 30 avril. Ce qu'on veut, c'est un plan qui va nous permettre de comprendre c'est quoi les étapes pour se rendre à la réalisation du projet. Donc, c'est un premier pas. Puis, pour se demander ce qu'Alexandre dit, c'est que là, ben, les canaux de conversation existent. Il y a des réelles conversations. Puis, on pense qu'on est très confiant sur le fait que ça va nous amener vers, justement, une entente. Maintenant, on va traverser la rivière. On va traverser le pont quand on va être rendu à la rivière. Nous, on est jusqu'au 30 mai. Jusqu'au 30 avril, pardon. Donc, c'est ça l'objectif.
Puis vous êtes actionnaire d'Immeuble des
Mondes? Non, je ne suis pas actionnaire d'Immeuble des Mondes.
Mais c'est une compagnie qui est actionnaire.
Non, je ne suis pas actionnaire. Mais si vous voulez, je peux prendre 2 minutes pour expliquer ça à tout le monde. Ça va me faire plaisir.
Ouais, c'est intéressant.
Ça va me faire absolument plaisir, mais c'est important de le préciser. Je vais essayer de la faire en moins de 2 minutes. Ça se peut que c'est en 24, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Je ne suis absolument pas un actionnaire d'Immeuble des Mondes. Je suis actionnaire d'une compagnie. Donc, je ne sais pas le numéro par cœur, 93 truc machin, Québec Inc., qui est propriétaire d'un terrain à Stonan. Okay? Ce terrain-là, il y a d'autres actionnaires. Cette compagnie-là a d'autres actionnaires. Donc, il y a moi, il y a Immeuble des Mondes, il y a Michel Pearson, puis il y a Vincent Girard. Donc, on est 4 actionnaires d'une compagnie qui possède un terrain à Stonan. Ce terrain-là, il s'appelle le versant ouest du Mont Stonan, donc pour ceux qui connaissent un peu la région. Donc, c'est un terrain que j'ai acheté avec les 3 autres actionnaires de M. Derry et Mme Roy par l'entremise de leur compagnie Immeuble des Mondes. Donc, je ne suis pas actionnaire d'Immeuble des Mondes. Je n'ai aucun lien avec Immeuble des Mondes. Et ce terrain-là, actuellement, aujourd'hui, est en vente. On avait un projet de réaliser un truc récréo-touristique qui ne se fera pas. Et puis, la décision a été prise au mois de juin dernier de vendre ce terrain-là. Donc, il est à vendre. Je ne fais pas de plug si on est juste un terrain à ce tournant, mais l'objectif, c'est que lorsque ce terrain-là sera vendu, je n'aurai plus aucune relation d'affaires avec Christian Derry. Donc, je n'ai pas de lien autrement que ça. Et on m'a déjà posé des questions si Christian Derry, c'était un de mes amis ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de relation personnelle autre que d'avoir un investissement dans une propriété, dans un terrain à ce tournant.
Donc, vous êtes à l'aise de participer au comité en tant que maire?
Je suis à l'aise de participer en tant que maire, mais je ne participe dans aucune discussion qui ont trait à l'immeuble des Monts. Okay. Donc, à cet égard-là, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, ouais, je pense que la semaine dernière, il y avait une rencontre entre l'immeuble des Monts et la ville de Lac-de-Lage à propos des terrains, le lotissement de terrain, une rencontre à laquelle je n'ai pas participé, que je ne participerai pas. Pas parce que je suis dans une situation de conflit d'intérêt, mais il pourrait avoir apparence de conflit d'intérêt, puis c'est pas une situation que je veux me placer là, donc à ce moment-ci. Et puis donc, mais je suis tout à fait à l'aise à répondre à toutes les questions que vous avez à ce sujet-là. Puis je peux comprendre que ça peut-être des fois donner une apparence, mais encore une fois, en toute transparence, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions.
Vincent
Roy,
merci pour les précisions.
Votre nom,
je m'appelle Stéphane, qui est venu de Rocher.
Oui.
Plus de 20 ans de l'âge. Je reviens au sujet 47, parce que merci pour les précisions. Vous avez parlé de l'immeuble des Monts, vous avez parlé du manoir, vous avez parlé de E47, vous avez parlé de la ville de Lac-de-Lage. Il y a une grosse partie des activités 47 qui seront sur la ville de Québec.
Ouais.
Est-ce qu'eux pourraient avoir, on va dire, une influence, un intérêt à participer à ce qui se passe ici, parce que c'est leur bassin versant, parce que c'est aussi le bonheur à 50% à peu près de la ville de Québec.
Oui, ils ne sont pas...
Oui, parce qu'on n'en parle pas. Donc, est-ce qu'ils veulent pas en entendre parler?
Bon, il y a encore juste 24 heures dans une journée. Fait qu'on commence par des acteurs de proximité, là. Donc, on a commencé à avoir des conversations. Puis, éventuellement, effectivement, la Ville de Québec pourrait participer là, à ces discussions-là. Mais le règlement de contrôle intérimaire, faut qu'on le gère ici. Donc, ce qui va se faire va être en fonction de respecter cette réglementation-là. Mais oui, je ne l'ai pas expliqué. D'ailleurs, il y a eu des discussions dans le passé là, avec la Ville de Québec. Là, donc, c'est sûr que ça va faire partie de là, pour l'instant, on n'a pas eu de communication avec la Ville de Québec encore. Donc on est en train d'établir justement le calendrier de discussion. Mais n'oubliez pas, c'est important de comprendre qu'on ne réglera pas le dossier au 30 avril. On va avoir une entente, puis un plan, puis peut-être que, là je dis n'importe quoi, mais peut-être que la quatrième étape dans le dossier, ça va être de justement inclure plus large pour valider les orientations, des choses comme ça. L'important, c'est de s'entendre sur un plan de match au 30 avril, puis après ça, se donner les moyens pour réaliser ce plan de match-là.
Si Québec a flux, ils en ont plus de poids que nous?
Ben oui, pour la réglementation à Québec, mais nous, ce qui nous intéresse à la base, c'est la réglementation au lac de l'âge, puis comment on peut faire respecter cette réglementation-là avec les activités, puis que ça soit comme en accord les uns et les autres.
Merci.
Alors?
Message hier, en cas de voix. Je voulais juste savoir si actuellement les acteurs que tu as nommés qui font partie là, du conflit avec le 47, est-ce qu'il y a d'autres oppositions? Est-ce qu'il y a de l'opposition, par exemple, des immeubles des monts? Est-ce que le conflit est essentiellement entre la ville et le 47? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'opposent à des.
Ben, en fait, c'est une bonne question. Là. On en est au début de nos discussions, disons. Puis, la première étape est réellement que Empire nous définisse, ça a l'air drôle de dire ça, mais nous définisse leurs besoins qu'on peut présentement. Une fois que les besoins sont définis, ben, c'est nécessairement qu'il faut que ces besoins-là soient accepté puis entériné par les propriétaires, voilà, les terrains qui sont de mémoire, puis
mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il y avait déjà comme vous l'avez dit, on avait-tu un
fonds
de communication?
On n'avait pas beaucoup de fonds de communication, bien honnêtement. Au cours des dernières années, il y a eu très peu de rencontres, de discussions, de communication, d'échanges ou quoi que ce soit entre la ville et au camp des autres intervenants. Là, on a décidé que l'intervenant avec lequel on voulait s'asseoir en premier lieu, c'est Empire 47, parce que c'est eux qui sont les gestionnaires de l'organisme. C'est eux qui ont intérêt à l'organisme qui se poursuit au-delà des qui sera le propriétaire des terrains dans le futur. Mais c'est
eux autres qui sont en infraction aussi.
Bien, en fait, sont en infraction. Mais comme je l'ai dit, Vincent, pour nous, la première étape, c'est définir le besoin, définir le projet. Sans ça, on ne peut pas avancer. On ne sait pas à qui parler. Il faut qu'eux, ils nous disent qu'est-ce qu'on veut faire en pire dans 5 ans, dans 10 ans. C'est quoi leur vision? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? À partir de là, le besoin est indéfini, mais là, on le saura. Es-tu ici? Es-tu là-bas? Es-tu plus de sentiers? Es-tu moins de sentiers? Es-tu plus d'employés? Moins d'employés? C'est quoi l'impact? Une fois le besoin est défini, c'est sur ça qu'on veut qu'ils travaillent le plus rapidement possible. Parce que sans un projet, on ne peut pas avancer. Ça prend un projet, puis il n'y en a pas. C'est ce que je dénonce, que l'ancien conseil dénonçait depuis longtemps, puis c'est ce que présentement on s'approprie aussi. Il faut définir le projet pour qu'il y ait un projet. Ce n'est pas à nous de définir le projet, c'est à eux. Il faut qu'ils définissent leur projet, mais là, on se porte volontaire, on veut les accompagner là-dedans pour pas qu'ils arrivent avec un projet que tout à fond, on fasse non, on ne veut pas ça. Fait qu'on pense qu'en parlant, mais. Mais ultimement, Mélissa, tu as raison, il va falloir que ce projet-là, une fois qu'il est défini, mais que les propriétaires, des terrains et des bâtiments, ils adhèrent définitivement.
Oui, mais c'est ça. Je me demandais juste s'il y avait déjà comme.
Personne ne dit je veux pas que ça marche.
C'est beau.
Non, puis même à ce sujet-là, à fond, il faut regarder les choses sur ce qu'elles sont. La ville a une poursuite judiciaire contre Empire, l'organisme Empire 47. Contre le manoir et contre l'immeuble des Monts, les deux étant associés parce que les activités se passent sur leur terrain. Donc, c'est les trois premiers parties. C'est entre ces parties-là et la ville où est-ce qu'on doit arriver à une entente pour après ça être capable de passer la prochaine étape. Okay. S'il y avait d'autres. Je ne sais pas.
Juste une question. Est-ce qu'il y a toujours une poursuite des immeubles des Monts vers la ville du Lac-de-Lard? Moi, j'avais entendu dire que les immeubles des Monts l'année passée poursuivaient la ville du Lac-de-Lard. Est-ce que c'est toujours en cours, ça?
Karen, est-ce que tu veux commenter ou François, veux-tu commenter là-dessus, Karen?
Oui,
ben,
je peux te rencontrer justement l'immeuble des Monts la semaine dernière pour, avec notre avocat et l'avocat pour faire état là, justement des points qui sont contenus dans la poursuite. Ça a été une excellente discussion. Puis, on pense là, que dans les prochaines semaines, on va être capable là, de vous annoncer
que
les deux sont pas liés, en fait.
Non, okay. Les deux sont pas liés. Puis, même, je vais être. C'est ça. Je suis ça avance bien de ce côté-là.
Ça avance absolument très bien de ce côté-là.
Ça concerne le projet de lotissement, c'est pas en lien avec les opérations.
C'est ça. Exactement.
Non, c'est pas sur le territoire de 47?
Ben, c'est le terrain des meubles des monts.
C'est derrière, le, c'est dans ce coin-là.
Ce qui serait pas un territoire sur lequel il y a des sentiers de la loi.
OK, c'est un quartier résidentiel.
Ben écoute, c'est un projet de lotissement, puis pour l'instant, il y avait une mésentente entre la ville et l'immeuble des Monts, puis ça c'est en train de se régler. On n'a pas encore obtenu la signature de tout le monde, mais ça a l'air à vouloir s'enlever dans le bon sens.
Ah, j'ai posé la question parce que je pensais que les deux étaient là. Ouais.
Et, mais non, c'est tout ce qu'il y a de lié dans ça, c'est que le propriétaire, les terres est le même que pour Empire.
C'est ça.
Parce que l'immeuble des Monts, à la base, c'est une entreprise qui possède des terrains et qui a comme vocation de faire du développement.
Oui, absolument.
Plutôt que de développer les terrains ici, on a décidé pour des raisons qui leur appartiennent de faire un centre de vélo plutôt que d'autres activités. Puis c'est le seul lien qui en fait deux aussi.
Juste en termes de terrain, juste aussi pour comprendre, l'agrelage, vous avez vu la carte tantôt?
Oui.
Il reste deux places, parce qu'on peut construire encore, parce que tout le reste est occupé déjà. Il y a des terrains en haut à côté de la rue du Refuge, puis il y a des terrains justement ici qui appartiennent à l'immeuble des Monts. Fait qu'il y a deux propriétaires dans la ville de la Grelage au complet, où est-ce qu'on a, sauf peut-être des lots ici à droite et à gauche, mais il y a deux emplacements un peu plus grands où est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire des lots éventuellement. Mais c'est tout, là. Il n'y a pas d'autres places pour développer quoi que ce soit.
Question complémentaire. C'est juste parce que quand on regarde au registre des entreprises, les immeubles des Monts, c'est rendu comme fusionné avec votre entreprise. Il n'y a pas rien qui mentionne que c'est sur un terrain à Stoneham. Ça, c'est pas clair.
Je sais pas quoi.
Je sais pas quand les immeubles des Monts maintenant, c'est qui les actionnaires avec qui vous faites affaire pour le règlement, justement. C'est comme si en 2015, les immeubles des Monts étaient disparus de la carte au registre d'entreprise.
Non.
C'est remplacé par une compagnie à numéro avec les immeubles des Monts. C'est seulement eux autres qui sont actionnaires dans les immeubles des Monts?
À ma connaissance, c'est les deux seuls actionnaires des immeubles des Monts.
Je ne sais pas s'il y a d'autres actionnaires.
C'est ça.
C'est les deux personnes qu'on a rencontrées avec.
Fait que l'autre compagnie, c'est vraiment une compagnie à numéro sur la Versailles.
C'est complètement. Immeuble des Monts est actionnaire de cette compagnie-là, comme je suis actionnaire de cette compagnie-là.
Oui, oui.
Mais il n'y a pas de. Donc je sais qu'ils existent encore là, comme une compagnie, mais là.
Non, c'est juste pour faire. Là, c'est clair.
C'est pour noter, je peux peut-être. En fait, c'est comme un petit holding. Hein. Il y a sept compagnies autour de l'immeuble des Monts.
Okay.
Il y a la propriété du lac, c'est pas Immeuble des Monts, c'est SDC.
Oui, mais on parle.
Non? OK. Ben, c'est mais je voulais qu'elle raconte.
De là-dessus. C'est moins notre rôle de définir l'organisation.
Non, ben, c'était vraiment pas. Oui. Quelqu'un qui essaie de faire son débroussaillis, c'était vraiment pas facile.
Okay. Est-ce qu'il y avait une question,
je pense? Oui,
monsieur. Une à la fois. Votre nom et votre emplacement.
Jean-François Gilliard, 7 Avenue du Rocher.
Merci.
Pour revenir à l'exemple sur ce que tu dis, ça va faire plus de terrain. Il y a peut-être très peu de développement possible. Moi qui suis sur le discours que je tiens depuis un bon bout de temps, donc on s'engage encore une autre personne qui s'occupe en théorie. Finalement, tout ce qu'il y a comme développement dans notre ville, qui dans ces marchés, c'est de la rénovation. On commence à avoir beaucoup de monde pour s'occuper de rénovation. Ils suivent une réglementation qui est imposée par les tiers qui eux-mêmes, dans presque tous les cas, ne sont pas capables de suivre les propres règlements qu'ils imposent. Alors que nous, dans notre petite ville, où tout le monde se connaît, quelqu'un fait venir un entrepreneur pour se faire un estimé, 5 minutes après, il y a un employé de la ville qui débarque, il n'avait pas de permis de faire des travaux alors que la personne a fait un estimé. C'est comme ça que ça se passe ici, c'est pas un reproche, mais aucune autre ville de la MRC est en mesure de réagir aussi fortement que nous à la réglementation. Ce qui impose à chacun des citoyens un fardeau assez important. Puis je dirais que suite à la vente de ma maison, j'ai pensé construire. Puis là, je me dis, c'est le parcours du combattant. Construire au lac de l'âge, là, je vais avoir quelqu'un qui voudrait essayer de se lancer là-dedans.
C'est quoi la question?
Alors, c'est que nous, auprès de la MRC et des instances de réglementation, je pense que notre devoir serait vraiment d'aller être représenté d'une manière forte pour que l'ensemble des gens qui font ce règlement-là, qu'on paye d'ailleurs la plupart du fait, c'est tout nos employés, là, nous mettre plein de bâtons dans les roues, qu'on aille leur dire, écoutez, vous faites un règlement que très peu de municipalités vont être en mesure de suivre, puis vous oubliez que nous qui avons les possibilités de l'imposer à nos citoyens de les suivre, vous oubliez que nous, on le fait. Ouais. Si vous, vous n'êtes pas de l'âge de faire, comme par exemple la réglementation très simple sur les arbres. Allez à Québec, là, s'il y a un arbre dans le cours, les citoyens ne demandent pas de, de permis pour un arbre.
Monsieur Giguère, je vais juste répondre brièvement à votre question là, en lien avec la MRC. On travaille avec la MRC, on est assujetti aux réglementations de la MRC. On pourrait faire des plaidoyers tant qu'on veut, mais il faut qu'on suive la réglementation. Maintenant, on a fait une restructuration, dans une réorganisation du travail avec l'équipe d'urbanisme. On pense que ça va être plus efficace. On se donne le temps de voir comment ça va fonctionner. Puis, vous avez raison qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions, mais il y en a quand même. Puis, les permis, ce n'est pas juste les constructions, c'est les rénovations et tout. Donc, on n'a pas le choix de les faire. Puis, le gros du travail, ben, c'est vraiment de s'assurer d'être concordant et de refondre notre réglementation. Ça, c'est propre à nous, la ville du Lac-de-l'Âge, mais notre réglementation d'urbanisme date de 2012.
2010.
Ça fait longtemps.
380 permis l'année passée.
C'est ça. Fait donc, bref,
c'est quand même 380
points. C'est ça.
Mais bon, juste, on est très
catholique. Une autre question ici, puis après.
C'est votre budget d'immobilisation, les lampadaires, ainsi de suite. Je me demandais si vous pourriez faire. C'est possible de faire des économies. C'est peut-être déjà le cas, mais si c'est possible de faire des économies, vraiment en faisant tout le projet d'un seul coup, une économie de volume, des meilleurs prix. Puis, est-ce que c'est possible aussi de faire des ententes avec d'autres municipalités pour faire des achats regroupés?
Ça, c'est sûr que c'est possible. C'est sûr qu'il y a des discussions, des fois, à la MRC pour des projets comme ça, mais François est en contact avec les autres DG, que je ne veux pas parler pour toi, mais on est en contact avec les autres DG.
Mais dans le temps de passé, est-ce qu'il y a eu des résultats tangibles?
Non. En fait, le gouvernement nous incite à le faire de plus en plus, d'ailleurs, d'essayer de voir des... Mais on le fait déjà avec la FQM pour acheter la chimie, tout ça. Il y a déjà des programmes là, qui nous aident à faire ce genre de trucs. Mais hein, pour les lampadaires, on n'a pas le même style de lampadaire que Stoneham. Tu sais, on rentre dans des technicalités des fois là, où on a essayé de faire la vidange des bouts en même temps et ça n'a pas marché. Pour des raisons.
Mais on fait le recyclage en même temps. Ben oui. Il y a des choses qu'on peut faire.
Il y a des choses qui se font bien.
Il y a des choses qui fonctionnent. Plus c'est fort là-dedans parce que j'ai l'impression que les économies. Là,
mais on l'a.
Je pense qu'il y avait M. Boisson qui avait une question.
Moi, je veux juste s'écouter avec M. qui a un peu critiqué l'urbanisme avec l'âge. Moi, j'ai vécu des périodes d'urbanisme ici avec l'âge. On a vécu le Far West à un moment donné où on faisait n'importe quoi. On avait des inspecteurs à la pièce qu'on engageait, de firmes externes qui ne connaissaient pas nos réalités, qui donnaient des permis à tout le monde. Ça se faisait, franchement, on était un milieu extrêmement sensible. On était à proximité du lac. On a toujours, malgré tout, traité les demandes d'urbanisme de façon humaine, en respectant les désirs des gens qui avaient des propriétés. Des fois, il y avait des choses qui étaient fourrettes, on ne pouvait pas le permettre. Mais la plupart du temps, on a toujours, comme disait Alex, donner des permis à tout le monde, peut-être des petites modifications, des fois des accords entre voisins pour s'assurer que ça ne nuise pas, que ce soit correct. Je ne pense pas qu'il
faut mettre la hache là-dedans. On est encore un milieu sensible, on est de plus en plus sensible. Puis je pense que tous les projets doivent être évalués correctement et doivent être évalués humainement. Mm-hmm. Je finis en disant que par rapport à ce qu'on vit avec le 47, j'espère que si un jour, moi ou ma famille sont en litige avec les réglementations de la ville, on aura autant de patience à me donner le temps de réagir, de m'exprimer par rapport à mes besoins, par rapport à ce que je veux vraiment faire. Puis je vois dans le même sens que mon préalable commentaire, si on avait été une si mauvaise équipe au niveau de l'urbanisme, ça fait longtemps qu'on aurait fait quelque chose de plus agressif avec le 47. Ça fait 10 ans que le conseil endure et essaie de trouver des solutions.
Ben,
je
ne
pense
arriver.
Pas qu'on ait été si vindicatif que ça, M. Giguère, avec la plupart des citoyens qui ont été et à qui on a mis du temps.
Donc, pour ranger là ce que tu dis, Marc, moi, je suis le premier à aller dans le même sens que tu dis. L'urbanisme, c'est à peu près notre service qui est le plus important pour toute ville. Tout passe par là, autant notre vision de où on veut aller, ça passe par l'urbanisme. Puis s'assurer que les règlements qui sont en place, ils soient bien appliqués, puis que les gens respectent, ça passe également par l'urbanisme. Donc oui, au cours des dernières années, notre budget en urbanisme a augmenté, mais on partait de très loin. Puis aujourd'hui, je pense qu'on peut être fiers d'avoir une ville qui est là pour faire appliquer sa réglementation. Puis là, on doit travailler pour faire de la concordance, comme tu l'as mentionné. Concordance, ça veut dire s'aligner avec les réglementations qui nous sont imposées par la MRC, mais également avoir des règlements qui sont similaires à nos voisins. On se doit faire ça. On se doit aussi définir où on va aller. Là, notre PIA, il est dépassé. Il y a plein de matériaux qu'on n'accepte pas parce que dans le temps, par un recouvrement, par exemple, extérieur, en double, c'était presque un crime. Maintenant, il y a plein de nouveaux revêtements qui sont à la mode et qui sont jolis et qui pourraient être intégrés. Fait que si on arrête de s'occuper de l'urbanisme, on recule. On va s'enfoncer, on va perdre le contrôle. Moi, je pense que l'environnement et l'urbanisme, puis évidemment, la voirie, on n'a pas le choix. La voirie, c'est faire de l'eau et ramasser les vidanges, mais puis déneiger. Mais l'urbanisme, c'est avec ça qu'on donne notre vision, qu'on dit où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on veut pas. Fait que, c'est important d'avoir des gens qui sont compétents, qui sont assidus, qui sont stricts sur l'application de la réglementation. Comme Marc l'a mentionné, quand il y a quelque chose qui ne fait pas de sens, le CCU est là pour recevoir les gens. On regarde ça, puis vous le savez, M. Giguère, on fait partie du CCU depuis plusieurs années. On étudie les dossiers, on prend le temps, tu sais, de voir comment on peut accommoder les gens sans empiéter sur les droits ou respecter le voisinage. Fait que moi, je je suis 100% d'accord avec le point de
Marc.
Mon
point était vis-à-vis les règlements qui viennent
au-dessus
de
ça. Et je ne vais pas être lent, mais juste pour que vous compreniez la séquence, là, on va devenir concordant. Là. Février, mars?
On essaye pour février.
On essaye pour février d'être concordant. Là. Puis je vous annonce qu'en mars, il y a un nouveau règlement qui... Il nous est imposé par la MRC, un nouveau PMAN. Fait que là, il faut rembarquer dans un exercice de concordance avec cette nouvelle réglementation-là. On était tellement en retard avec notre concordance sur le précédent règlement de la MRC. Fait qu'on est dans une course contre la montre pour finalement arriver. Et la conséquence, si on n'est pas concordant, c'est qu'on ne peut pas modifier nos règlements municipaux. Donc, même si on voulait faire un changement de zonage, on voulait faire peu importe le changement de réglementation municipale, le ministère nous interdit de le faire si on n'est pas concordant. Ce n'est pas comme un choix, une option, un désir. Là. Il faut suivre ces étapes-là. Vous avez raison, ça coûte cher. Il faut qu'on le paye. On est une petite municipalité. Ça nous coûte, on a l'impression que ça nous coûte plus cher par personne. C'est un peu l'envers de la médaille de vivre dans une plus petite municipalité. Et on est 2 personnes maintenant au service d'urbanisme. Ils sont 5, 6 à ce tournant. Notre budget, c'est à peu près 5 % je pense,
5 %
dédié à l'urbanisme. À ce qu'on a, c'est 10 % Il y a d'autres places dans d'autres municipalités aussi qui sont autour de 5 % Fait que ça dépend, mais ça fait... Ouais. En anglais, ils disent « cost of doing business ». Ça fait partie d'opérer une ville. Il faut avoir un service d'urbanisme pour suivre ça.
Cette mise à niveau-là va permettre d'augmenter l'efficacité aussi, parce qu'il y a des demandes de dérogation mineures qui
qui pourrait ne pas avoir lieu parce qu'il pourrait être intégré dans la mise à niveau de notre réglementation. Tu parles des revêtements, par exemple, des revêtements métalliques, c'est quelque chose qu'on approuve par dérogation mineure qui est présente aux issues. Fait que c'est de la lourdeur administrative aussi. Fait que il y a cette mise à niveau-là qui est importante aussi.
Et puis pour qu'on ait de rien, c'est sur la mise à niveau qui sera plus bonne en mars.
C'est sur le fonctionnement
électrique. On va prendre.
Dernière question, maintenant.
Moi, j'ai une toute petite question. Je vais faire Bélanger, 23 minutes du lac. Sur vos plans là, de la ville avec les numéros, oui. vous mentionnez le 10, c'est le manoir. Puis il y a le 9 qui est en pierre 47.
Oui.
Mais le 9, ça appartient au manoir.
Oui, en fait, le terrain appartient au manoir, il est loué en pierre 47, et les principales activités sont là.
Donc, moi, c'est juste sur le coût de l'eau que vous avez, 63% qui est.
Oui.
Ce terrain-là est inclus dedans.
En fait, ça va être sur la voirie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de circulation. Alors, tout ce qui est voirie va relever d'eux.
Je pense que la question, c'était sur la consommation d'eau.
La consommation d'eau que vous...
Il n'y a pas d'eau.
La consommation d'eau, c'est 38% par le manoir, et les compteurs ont été installés du côté des installations. Mais du côté ici en arrière, il n'y a pas...
C'est parce que vous disiez que vous allez payer, il va payer plus de taxes parce que justement... prennent plus d'eau.
Oui.
Le 47
aussi dans la frère,
j'imagine.
Ben non, il n'y a pas d'eau là. Oui, il y a une petite prise là.
La journée longue,
oui,
samedi.
Oui, mais ça, l'année prochaine, il va y avoir un compteur qui va être installé.
C'était ta question.
C'est ça. Il va y avoir un compteur d'installer parce que les terrains et les bâtiments appartiennent au manoir, donc sont responsables de leur consommation d'eau. C'est juste que les premiers compteurs étaient du côté là, des installations de l'hôtellerie. Et le prochain, je ne sais pas,
ils ont déjà des compteurs, là. Okay, mais il faut qu'ils tournent un an avant qu'on ait de la consommation.
Okay. Ça sent bien.
Juste savoir si la taxation était...
Ça va
parce
faire...
Parce que
c'est
une
business.
Ouais.
Non, c'est sûr. Oui, c'est ça. Vous avez entendu.
Juste
avant.
Mario Gobel, Ville des Villas. Moi, c'est concernant les modifications de la réglementation de l'urbanisme. J'aimerais savoir si on va être consulté ou informé. Je pense qu'on va en avoir plusieurs durant avoir la concordance, mais la ville aussi peut faire sa révision.
Ouais.
Ça serait bon, les gens ont une question, puis des fois, pour dépersonnaliser peut-être avec les employés, dire c'est ça la réglementation, puis l'expliquer.
Ben oui, vous avez raison, puis je vais répondre à ça rapidement. Mais dans le fond, il y a des exercices comme la concordance avec la MRC, il n'y a pas de consultation, c'est en guillemets, c'est ça qui est ça. C'est imposé. Mais pour tout ce qui est la refonte de notre réglementation, partie prenante de ce processus-là, il y a des consultations qui vont avoir lieu, des consultations publiques. Puis, ça faisait partie aussi, indépendamment de ça, ça fait partie de nos engagements, de s'assurer de consulter la population par rapport à qu'est-ce qu'on souhaite voir dans notre futur, dans notre vision. Donc, il va aussi avoir des consultations en lien avec ça, indépendamment de la réglementation d'urbanisme proprement dit.
Absolument. Pour vous dire, la LAE, la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, c'est obligatoire. Quand on fait un règlement d'urbanisme, il y a consultation. Il peut même avoir un référendum lorsque les gens le demandent.
Ça soit bien annoncé.
Absolument.
Comptez
sur nous pour travailler sur une meilleure communication, sans faute. On a pas mal à peine, à moins qu'il reste. Moi, j'aime ça, une dernière question. Je vais juste attendre à l'avenir au sujet, je veux voir si quelqu'un d'autre.
Pour
que ça soit des questions. S'il y a des questions spécifiques. Commençons par la question. Est-ce qu'il y a une question?
Oui.
Alors posez-moi la question, M. Gigas.
Est-ce que, par exemple, quand on a regardé ce qui est couleur tantôt pour la taxation sur le
tableau?
Oui. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais par exemple, on parle. D'une génératrice qui va coûter 45 000 $ Est-ce que qui va payer la génératrice?
J'explique ça. J'explique ça rapidement. Ben, si c'est ça votre question.
Est-ce que ça va être juste ceux-là qui reçoivent de l'eau?
C'est
toute la ville.
Non, c'est ceux qui reçoivent le service.
Okay.
Puis la création des réserves, donc les gens qui mettent l'argent dans le pot de la réserve.
Ouais.
Bien, cet argent-là va servir à des infrastructures qui sont utilisées par ces payeurs-là. Donc, ce ne sera pas, par exemple, les résidents qui n'ont pas accès à l'eau ben, qui vont payer pour des infrastructures, des niveaux de l'eau. Donc, ça va y avoir un lien direct entre utilisateurs et fonds.
Dans les liens directs, comme ça, ici même, on a déjà parlé des fameux ponceaux.
Ponceaux font partie de la voirie. Il y a un fonds pour la voirie pour l'ensemble des citoyens.
OK.
Ça, c'est partout. Bravo. Donc, ça prendrait un proposant pour lever l'Assemblée? Donc, la proposition de Frédéric, vous proposez de lever l'Assemblée à
20h26.
20h26. Merci.
Bon jour.
Content? Ben oui, très bien.